Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio-Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis. Bonjour Denis Siffer.
Bonjour.
Votre regard, Syrie, une petite musique française. Qu'est-ce qui vous marque, Denis Siffer, dans les commentaires liés à l'arrivée au pouvoir des rebelles à Damas ?
Eh bien, c'est une insistance peut-être excessive et peut-être même suspecte à la vigilance et à la méfiance à l'égard de Joulani et de Hacham Tahrir al-Sham. Évidemment, on a le droit d'être attentif à ce qui se passe et de ne pas être naïf. Mais à quoi ça sert de dire ça aujourd'hui, de sonder les reins et les cœurs des islamistes? Il faut prendre ce qu'ils disent, en prendre acte, comme disent les diplomates, et puis avancer. C'est-à-dire que ce pays n'a pas besoin d'être enfoncé encore un peu plus, il a besoin d'être aidé. Et il a besoin de que probablement très rapidement, disons, les sanctions qui ont été prises contre Bachar el-Assad soient levées. Et cette question-là, justement, va être décisive, à mon avis, dans l'évolution des groupes armés qui ont pris le pouvoir à Damas. Donc, je suis très inquiet. J'entends une journaliste de France Inter interviewer le ministre et lui demander s'il va prendre contact avec le groupe terroriste. Bon, alors je sais bien que ces organisations sont encore classifiées terroristes officiellement, mais enfin, c'est plus de saison, c'est pas comme ça qu'il faut les qualifier dans l'immédiat. Je dis pas que ça reviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas ça. Et donc, je suis très inquiet. Et puis, il y a autre chose qui, non seulement cette méfiance tout à fait excessive, qui finit par ressembler presque à de la nostalgie. Bon, à ça, personne ne l'aimait, surtout pas les journalistes français. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il il rassurait à certains égards parce que cette dictature épouvantable assurait une sorte de stabilité. Et donc, je voudrais pas qu'on ait la nostalgie, non pas d'Assad, mais de la stabilité, parce qu'effectivement, on entre dans une phase d'incertitude. Il va falloir faire avec.
Et il faut rester attentif. Écrivez-vous et vous soulignez que les rebelles qui ont renversé Bachar al-Assad ont fait tout le contraire des Américains en Irak.
Oui, bien sûr, parce que les Américains en Irak, parce que là aussi j'ai entendu un commentateur dire que les islamistes en Irak, ça avait donné Daesh. Mais c'est les Américains qui ont donné Daesh en Irak, c'est pas les islamistes. Enfin bref, mais effectivement les Américains, l'administrateur Paul Bremer, qui a été mis en place par Bush à l'époque, à Bagdad, il avait démantelé complètement l'État irakien, avait jeté à la rue tous les fonctionnaires militaires, policiers, fonctionnaires civils même du régime de Saddam Hussein. Et ce sont ces gens, des sunnites, qui ont été précipités, disons, dans les mains de Daesh à la frontière syrienne. Au lieu de ça, aujourd'hui, les HTS, comme on l'appelle, donc Al-Joulani, ils sont très attentifs à ne pas démanteler. C'est très paradoxal d'ailleurs, à garder les fonctionnaires, à garder les structures de l'État, et ils ont même négocié avec l'ancien Premier ministre de Bachar el-Assad. Je trouve ça très habile et assez rassurant de ne pas vouloir démanteler, parce que c'est effectivement dans ces situations de chaos créés qu'on favorise le retour de Daesh.
Et dans votre regard, Denis Siffer, vous évoquez les différentes étapes à venir, la levée des sanctions, la reconnaissance du nouveau régime, puis des élections.
La reconnaissance, elle est en cours, puisque les États-Unis, qui eux aussi ont tiré le bilan de 2003 et de l'Irak, d'ailleurs, ont pris rapidement contact avec les dirigeants de HTS. Le drapeau français flotte de nouveau, on l'a assez dit, sur l'ambassade de France à Damas. Et l'ONU également a pris contact, et l'Union européenne, enfin, tout le monde accomplit ce geste qui est beaucoup plus que symbolique. Ensuite, la deuxième étape, ce serait la levée des sanctions, et je pense qu'il faut que ça se fasse très vite, parce que comme je le disais à l'instant, ça va déterminer en partie le cours de l'histoire, c'est-à-dire que si effectivement les gens, une fois la grande période de liesse et de libération à laquelle on assiste aujourd'hui et qui fait quand même chaud au cœur, si les gens ne voient pas de bénéfices sociaux, ça risque encore une fois d'être récupéré par des islamistes djihadistes, cela, puisque je vois que on mélange tout ça dans le vocabulaire visuelle dans les médias. Et la troisième étape, qui est sans doute plus lointaine, mais pour laquelle il faut obtenir des engagements du nouveau pouvoir de Damas, c'est en effet des élections en perspective.
Et la situation sociale, la situation économique des Syriens, elle n'est pas suffisamment mise en lumière aujourd'hui?
On dit quand même que c'est un pays qui est... a été démantelé, précipité dans le chaos, etc. Et donc, effectivement, ça ne peut passer que par une aide occidentale ou des pays du Golfe. Il va falloir vraiment mettre la main lourdement au portefeuille. Hein. Puis il y a un autre aspect qui est assez négligé, ou en tout cas qui est exprimé dans une grande confusion, c'est la situation des Kurdes à l'est du pays. Et pour l'instant, le pouvoir de Damas ne maîtrise pas, ne contrôle pas tout le territoire. Et donc à l'est, c'est toujours les Kurdes qui ont une sorte de pouvoir de fait. Et c'est d'ailleurs eux qui détiennent dans les geôles les gens de Daesh. Et là, il y a quelque chose qui se profile et qui va même déjà à l'œuvre, c'est-à-dire c'est la volonté de la Turquie, d'Erdogan, d'attaquer ces positions kurdes pour les repousser au plus loin possible de la frontière. Et là, on va avoir quelque chose qui est très très risqué, c'est-à-dire pour le HDS et le pouvoir de en place à Damas, c'est-à-dire qui ont été aidés, ou en tout cas qui ont été vus d'un bon œil par la Turquie, et qui vont se trouver là probablement en contradiction avec la Turquie s'ils ne veulent pas que les Kurdes soient les grandes victimes de cette situation, et donc là ils vont être dans une situation qui va être très très compliquée. Ça, c'est un grand risque pour la suite.
Vous écrivez d'ailleurs que si Daesh doit ressurgir, ce ne sera pas des rangs d'HTC, mais des conséquences de l'écrasement des Kurdes par les milices pro-turques à l'est du pays.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que alors là aussi on a une grande confusion dans ce que j'appelle la petite musique française, franco-française sur le compte rendu de ce qui se passe en Syrie. On a l'impression que Daesh va émerger de HTC. Non, HTC a donné des gages bien avant d'ailleurs la prise du pouvoir à Damas. Ils ont affronté Daesh, ils ont affronté Al-Qaïda militairement, ils les ont vaincus. Donc c'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, il y a des positions de Daesh qui existent encore dans le désert et à l'est du pays. Et dans la zone qui en particulier est sous contrôle kurde. Et c'est là, comme je disais, que les choses vont se jouer. Bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. On ne voit pas, disons, une résurgence massive de Daesh en Syrie. C'est pas. Je pense que c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est moi qu'on puisse dire.
Merci, Denis Sifar.
Merci à vous.
Votre regard dans Politis, Syrie, une petite musique française.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.